RCF.
Parmi les axes forts du carême, il y a le jeûne. Il s'agit, au cours des 5 semaines de préparation à Pâques, de vivre une forme de privation de ce qui nous rend dépendants. Longtemps, cette privation a porté sur la nourriture, mais aujourd'hui, elle peut concerner tous les outils numériques, par exemple, dont nous sommes devenus esclaves. Mais dans le cadre de ce carême, ce n'est pas tant la question du jeûne que nous allons aborder que celle de la sobriété. Alexandre Masson, bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous êtes jésuite en formation et nous allons donc réfléchir avec vous à cette question de la sobriété dans Halte Spirituelle. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, d'autant que vous êtes membre de l'équipe du centre spirituel du Châtelard, qui est désormais un éco-centre spirituel. Cette maison jésuite se trouve tout près de Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Et donc, on aura l'occasion d'en parler dans ces entretiens. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous disiez comment vous vivez le carême, ce que ce temps représente pour vous et la place du jeûne que traditionnellement on y accorde.
Pour moi, le carême, c'est un temps de préparation à Pâques. Je dirais que c'est un temps de conversion. Un temps pour regarder peut-être davantage de plus proche le Christ, la manière dont il a vécu, et puis un temps peut-être pour raviver mon désir de le suivre et de l'aimer et de vivre à sa manière. Ça passe par des petites attentions à des choses qui, habituellement, on va dire dans le quotidien, passent un peu aux oubliettes. Voilà, telle relation avec tel collègue de travail dont j'aimerais davantage prendre soin, tel moment vécu en communauté avec les frères jésuites, telle attention à la prière. Je dirais, passe par des petites choses, sentir aussi où est-ce que, là où, le point où j'en suis, dans mon quotidien, dans l'équipe de l'éco-centre spirituel jésuite, dans ma communauté, dans d'autres lieux où je suis envoyé en mission. C'est quoi le petit pas de plus pour vivre vraiment de la mort et de la résurrection du Christ?
Alors vous venez de parler de la prière, ça fait partie des 3 grands axes sur lesquels on est invité à se pencher plus particulièrement pendant cette période. Donc il y a la prière, il y a le partage ou l'aumône, comme on disait avant, et le jeûne. Comment ça résonne pour vous, ce terme de jeûne?
Si l'enjeu du carême, c'est de regarder de plus près le Christ, le mieux le connaître pour mieux l'aimer et le suivre, le jeûne, comme avec le partage ou la prière, en fait, l'enjeu, c'est de lui faire de la place au Christ. Et donc, le jeûne, ça vient toucher, en fait, dans ma vie, ce à quoi je suis attaché, parfois pour des raisons légitimes. Souvent, on pense jeûne de nourriture, par exemple, on a besoin de se nourrir. Mais en même temps, quelle liberté je trouve par rapport à ces choses matérielles, par rapport à ces enjeux. Ça peut être aussi jeûne de relation, vous avez parlé des écrans tout à l'heure. Finalement, toutes ces choses bonnes en soi dans ma vie, est-ce que parfois elles prennent pas trop de place au point de me faire oublier l'essentiel? Et donc le jeûne, ça vient toucher ça, retrouver des marges de liberté, parfois me priver de choses qui font partie de mon quotidien, qui sont pas mauvaises.
Mais excessives.
En tout cas, si je les absolutisais, me ferait oublier la fin pour laquelle je suis créé, pour reprendre les mots d'Ignace, qui est louer, respecter, servir le Seigneur à travers aussi mes frères et sœurs.
Pour beaucoup de gens, le mot carême, ça fait écho à pénitence, à du sacrifice, à un effort. C'est comme ça que vous l'envisagez, vous? Un temps de pénitence?
Je dirais, tout dépend comment on entend le mot pénitence. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est très chargé ou connoté négativement. Pénitence, ça veut dire aussi reconnaître, là en l'occurrence, mes péchés, en éprouver de la tristesse pour les péchés que j'ai commis, mais que cette tristesse ne soit pas quelque chose dans lequel je m'enferme, mais au contraire, quelque chose qui me conduit à aller de l'avant, à accueillir aussi le pardon du Christ, offert par le Christ, et donc aussi à me laisser renouveler dans ma vie, me laisser transformer, me laisser relever, pour vivre davantage de la vie de Dieu. Donc je pense que la pénitence, c'est un chemin vers une vie plus pleine, plus dense, plus vivante.
Goût.
Voilà, exactement.
disiez il y a un instant, Alexandre Masson, que le carême, c'est un temps qui nous permet d'aller plus vers ce qui nous fait de nous des vivants, vers ce qui nous rend plus vivants. Or, il se trouve que cette année, sur RCF, on a choisi comme thème du carême cette phrase du livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament, au chapitre 30. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple à travers la bouche de Moïse et qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Ça consonne avec ce que vous venez de dire là?
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce passage du Deutéronome, c'est, on peut dire, la liberté, j'allais dire, et de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur, le malheur. Bah, ça renvoie, enfin, chacun a, on peut dire, ses responsabilités. C'est-à-dire, il y a la possibilité de choisir. C'est là où, pour reprendre une question que vous me posiez tout à l'heure, il peut y avoir un enjeu, il peut y avoir un effort, voilà, parce que bah, poser un choix, bah, ça peut coûter. Et en même temps, bah, ça dit aussi profondément qui nous sommes, ça dit que l'être humain est libre, est voulu et créé libre par Dieu. Et donc, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire que ce que je vis dans ma vie qui peut m'entraver, eh ben, j'en suis pas esclave, j'ai une marge de liberté et il y a un chemin possible.
Mais ce qui nous conduit vers plus de vie, vers un plus de vie, n'est pas forcément le chemin le plus facile?
Je ne crois pas, en fait. Je pense qu'il y a une dimension aussi de combat, combat spirituel. C'est la prière lue par le prêtre le mercredi des cendres, juste avant les lectures. Il dit, ben voilà, ce temps de carême, c'est un temps aussi pour prendre des forces pour s'entraîner au combat spirituel, voilà, parce que justement il y a des choses auxquelles on tient ou qui nous retiennent ou qui nous attachent, qui peuvent parfois faire obstacle à ce mouvement de conversion que pourtant on désire, quoi. Ou alors ça me fait penser à saint Paul qui dit, bah, le bien que je voudrais faire je ne le fais pas et le mal que je ne souhaite pas, bah, il m'arrive d'en vivre. On est travaillé par des tensions, des contradictions.
Et des paradoxes.
Et des paradoxes, voilà. Et donc, bah, ce chemin de jeûne ou de sobriété, pour reprendre le thème de notre émission, et bah, c'est un chemin justement aussi pour apprendre à redécouvrir, tout à l'heure vous disiez aussi, le goût. Donc c'est paradoxal parce que se priver de nourriture, ça peut nous apprendre à... se jeûner de nourriture, ça peut nous apprendre à redécouvrir le goût, paradoxalement. C'est-à-dire faire de l'espace en nous pour accueillir le Christ. Ça peut nous aider aussi à retrouver le relief, la saveur des choses qui font notre vie, des choses vraiment importantes, d'autres moins, pour pouvoir retrouver de la liberté et, pour reprendre le mot du Deutéronome, choisir davantage la vie et un peu moins... le malheur.
La sobriété, ça peut être un synonyme du jeûne, ou en tout cas une autre manière d'aborder la question du jeûne.
Ben, je dirais, pour moi, la sobriété, c'est un mode de vie. Enfin, en tout cas, pour moi, ça résonne très fort du côté de Laudato Si, donc l'encyclique du pape François, qui parle de l'éducation et de la spiritualité écologique dans le dernier chapitre de Laudato Si, et qui prône la sobriété comme un chemin chrétien, comme mode de vie plus écologiquement responsable et puis conforme aussi à ce à quoi nous appelle le Christ. Donc je dirais plutôt ça comme ça. Ouais.
D'autres l'avaient utilisé avant lui.
Tout à fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout spécifiquement chrétien et qu'on retrouve ça par exemple chez Pierre Rabhi.
Avec la fameuse sobriété heureuse.
Et puis chez d'autres, donc ça aide aussi, c'est un mot peut-être aussi moins connoté religieusement que jeûne. Après le jeûne, je pense qu'il y a quelque chose du côté d'un effort de conversion. Là où la sobriété, et donc c'est ponctuel aussi le jeûne, on ne jeûne pas toute l'année. Alors que la sobriété, je dirais que c'est quelque chose dans laquelle on est invité à entrer et à adopter.
De manière quasi définitive.
On pourrait dire ça, oui.
Alors là encore, c'est un terme qui est un peu surprenant. On a vécu des décennies d'opulence, de surconsommation, les fameuses 30 glorieuses, que certains appellent d'ailleurs les 30 désastreuses. On est toujours plus intelligent après. Mais aujourd'hui, on aspire, enfin un certain nombre de nos contemporains aspirent à lâcher ce mode de vie.
Bah, c'est une bonne question. C'est-à-dire, effectivement, j'entends très fort une critique de la société de consommation, de modes de vie qui ont été adoptés après-guerre, on peut dire. Et puis une conscience de plus en plus vive que nos modes de vie occidentaux et puis le train de la croissance économique tel qu'on l'a envisagé ces dernières décennies, en fait, ces manières de vivre et cette manière d'envisager le progrès ne sont pas viables ou ne nous conduisent pas finalement à un mieux vivre. Donc il y a à la fois cette prise de conscience, à la fois on voit bien quand même que c'est pas si simple que ça de changer de représentation de ce que c'est qu'une vie bonne, de désirer autre chose, de goûter à autre chose. Je pense que ça reste... vous parliez des écrans. Ça continue. On continue à avoir envie d'avoir un téléphone, peut-être dernier cri, qui fonctionne bien. On continue à être intéressé par tel vêtement, par tel voyage à l'autre bout du monde. Donc c'est ça, je dirais, il y a quand même une forme de contradiction dans nos sociétés, quoi, entre à la fois une conscience plus vive des enjeux écologiques et en même temps, dès qu'il s'agit pour soi de s'y mettre, c'est plus compliqué, quoi.
On vous retrouve demain pour poursuivre cette réflexion. Merci beaucoup.